marche du monde.
À l'arrivée en Guyane, l'âge approximatif était entre 24 et 35 ou 38 ans. C'était la majeure partie. Les types qui arrivaient, malgré leurs quelques années passées en centrale, avec une assez bonne santé, et plein d'illusions. Mais, malgré tout, il y avait beaucoup de bonne volonté de garçons qui auraient voulu rechanger complètement leur situation, puisqu'ils étaient condamnés à vie. C'est-à-dire qu'une fois votre peine finie, vous ne pouviez pas entrer en France. Vous étiez astreint à rester à la colonie jusqu'à la fin de vos jours.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Exilé à vie en Guyane, c'est le sort de tous les forçats venus de métropole ou d'Afrique du Nord dès 1854. La France coloniale veut ainsi peupler et valoriser ce bout du monde tout en éloignant les opposants politiques ou encore les criminels. La marche du monde est en Guyane, département français situé en Amérique du Sud, sur les traces d'un siècle de bagne avec l'historien Michel Pierre.
Tous les navires, pendant une longue période, vont arriver au large des îles du Salut. Tous les forçats, tous les condamnés vont débarquer à l'île Royale et ensuite vont être répartis dans d'autres camps sur le continent, sur la Guyane continentale, ou éventuellement aller toujours aux îles du Salut, à Saint-Joseph ou à l'île du Diable.
Ce qui est très étonnant, Michel Pierre, lorsque nous arrivons ici aux îles du Salut, c'est que d'une certaine façon, c'est le paradis. C'est vert, il y a les cocotiers, il y a la mer, et en même temps, ce paradis, c'est l'enfer.
On imagine ce que peut être le choc de délinquants qui ont l'habitude du pavé des grandes villes et qui se retrouvent aux franges de la forêt amazonienne. N'oublions pas que dans le code pénal, pendant plus d'un siècle, la punition la plus importante est évidemment la peine de mort, mais ensuite, nous avons la peine des travaux forcés à perpétuité. Chez les forçats qui arrivent en Guyane, n'oublions pas que ce sont des condamnés de cour d'assises, en général ce sont des gens qui ont commis quand même des crimes, mais en même temps, l'idée de partir en Guyane pour une partie d'entre eux, c'est l'idée utopique de pouvoir s'évader. Et il est vrai quand même que de Guyane, on peut s'évader plus facilement que d'être enfermé dans une maison centrale en France.
On m'a envoyé aux îles du Salut. J'ai fait 2 ans de réclusion. La réclusion, c'est un bâtiment un petit peu plus dur que les travaux forcés ordinaires, puisque vous étiez enfermé dans les cellules.
Ça devait être terrible, dites-nous, d'après ce qu'on a vu.
Ouais, ma foi, c'était terrible. Ce n'est pas bien agréable. Parce que la réclusion, c'était 2 rangées de cellules, dans l'intérieur, dans murs avec des fenêtres, avec une espèce de galerie au-dessus des cellules, d'où le surveillant pouvait vous surveiller, et vous étiez enfermé dans ces cubes.
Mais qu'est-ce que vous pouvez faire là-dedans?
Pas rien du tout. Vous n'aviez qu'à vous promener en attendant l'heure du coucher ou la soupe.
Voilà, nous avons nous aussi réussi à atteindre l'île Saint-Joseph, ce qui n'est pas facile aujourd'hui par gros temps, Michel Pierre. Et puis on va évidemment reprendre ce fil de l'histoire que vous nous contez aujourd'hui dans la marche du monde, ici en Guyane, aux îles du Salut.
Oui, à la fin du 19e, l'île Saint-Joseph devient le lieu de la réclusion. Et c'est vraiment le bagne du bagne, c'est la prison du bagne, c'est la peine de la réclusion qui vient aussitôt après la peine de mort, et c'est la peine évidemment la plus dure.
Michel Pierre, et ce chemin qui nous mène au camp de réclusion, c'est un chemin impressionnant, avec de très gros pavés. Est-ce que ce sont les bagnards qui ont fabriqué ce chemin de pierre?
Ah oui, on est vraiment sur un travail cyclopéen, titanesque, réalisé par des générations de forçats. Ils ont même construit, édifié leur propre lieu de punition. L'expression « casser des cailloux au bagne » est à peu près juste, avec de gros pavés retirés de la carrière locale. Là, nous avons une route pavée, extraordinairement bien faite, qui monte au sommet de Saint-Joseph, où nous avons eu justement l'édification de ces cellules du camp de la réclusion.
Donc on gravit justement, ça glisse évidemment avec la pluie, on gravit ce chemin de pierre. Et alors là, on découvre devant nous ce camp de réclusion. On peut encore lire d'ailleurs les dates. Hein,
qui sont 1895-1897.
En même temps, lorsqu'on marche dans ces allées de ce camp de réclusion et qu'on rentre comme ça ensemble dans les cellules, on joue entre les lianes puisque la nature vraiment reprend ses droits. Et on voit bien au-dessus de notre tête hein, ces grilles hein, et le ponton qui figure la promenade en fait des gardiens.
Oui, si je me mets dans la peau d'un condamné à la réclusion, on est dans une cellule très étroite dans laquelle il y a la place du bas flanc et pour se dresser debout. Le toit est composé de grilles, comme dans une cage en quelque sorte. Et au niveau de la grille supérieure, eh bien, vous avez un chemin de ronde qui surveille de part et d'autre. Et vous pouvez toujours avoir un gardien qui vous surveille à l'intérieur de la cellule dans laquelle vous êtes. Alors ce qui manque aussi quand on est comme ça, comme nous à l'île Saint-Joseph aujourd'hui, c'est peut-être évidemment les bruits qui pouvaient être ceux de cette population, en comptant le personnel pénitentiaire, en comptant des forçats qui sont ici, non pas obligatoirement en réclusion, mais enfermés, qui travaillent, qui entretiennent le site. C'était des bruits, le bruit des pas des uns et des autres, les ordres des surveillants militaires, les groupes qui marchaient ou qui étaient plus ou moins libres à l'intérieur de Saint-Joseph, c'est tous ces bruits, évidemment, qui aujourd'hui ont totalement disparu, mais dont on peut encore peut-être sentir la respiration.
Quand on essaye d'imaginer effectivement ce que pouvaient entendre les bagnards et tous ceux qui travaillaient sur ce camp de réclusion, on pense bien sûr à tous les sons de la journée qui marquent vraiment leurs conditions. On pense aussi aux sons de la nuit. Il y a quelque chose d'assez effrayant en même temps dans cette nature très sauvage, avec tous ces animaux, ces oiseaux, le ressac. C'est toute une ambiance très particulière.
Oui, le ressac est extrêmement présent. Et les témoignages que nous avons, ils mentionnent le bruit de la mer permanent qui ne s'arrête jamais comme un bruit obsédant, pénible, celui des vagues. Et nous avons une forme de végétation de forêt. Il n'y a quand même pas les fauves, mais on a tout ce qui peut être insectes, oiseaux, tous les bruits de la forêt.
Là, nous arrivons vraiment, je dirais, au cœur du bagne.
Là, nous sommes dans le mitard de la réclusion, c'est-à-dire le pire du pire de la répression au bagne de Guyane, cellule entièrement sombre, entièrement couverte, un caveau avec une porte qui s'ouvre bien quand la punition est terminée. Alors évidemment, les personnes laissées comme ça dans le noir, individuellement et dans le silence le plus complet, on le fait sur des périodes relativement courtes, puisque très rapidement on peut devenir totalement fou dans ce type d'ambiance. Ensuite, on réintègre sa cellule, je dirais, ordinaire, où là il pénètre quand même un peu de lumière et on est mieux nourri.
Les condamnés donc à l'époque font des graffitis sur les murs et aujourd'hui donc ce sont d'autres dessins, d'autres graffitis. Là devant nous un pochoir qui est en train d'ailleurs de s'abîmer avec la pluie.
C'est mort aux vaches, mort au Condé, vive les enfants de Cayenne, qui est une chanson qui avait été un peu oubliée mais qui a été reprise aujourd'hui par plusieurs groupes et qui garde la mémoire de ces moments où on a envoyé au bagne quand même des dizaines de condamnés relevant des lois scélérates contre les anarchistes.
Yeah.
Le chemin est bordé par les cocotiers, toujours le son du ressac, hein, tel que justement les bagnards pouvaient eux aussi l'entendre, Michel Pierre. Un son entêtant, obsédant, qui ne s'arrête jamais. Et là, nous arrivons dans un lieu extrêmement étonnant.
Oui, c'est un lieu émouvant. C'est le cimetière du personnel pénitentiaire, le cimetière des hommes, le cimetière des surveillants. Ils venaient parfois en famille aux îles du Salut et qui sont morts en nombre aux îles, qu'ils appartiennent au personnel civil qui était présent pour l'administration pénitentiaire ou aux surveillants militaires eux-mêmes.
Michel Pierre, est-ce que dans ce cimetière, on peut trouver également des tombes de bagnards ?
Non, c'est exclu. Les forçats morts aux îles étaient immergés. Comme un décès survenant dans un bateau, par exemple, le bagne est géré par le ministère des colonies, qui vient du ministère de la Marine et des colonies. Et donc, il y a des longues traditions qui se perpétuent. Et en quelque sorte, ces îles du Salut entourées de la mer, qui sont comme une espèce de grand navire pénitentiaire, eh bien, tout logiquement, on y applique ce qui se fait sur les bâtiments quand un matelot décède, c'est-à-dire qu'on les immerge en mer. Ils ne sont pas jetés, comme on le dit parfois, ils sont immergés au large, ou disons dans la rade entre Royal et Saint-Joseph.
On s'éloigne tout doucement de l'île Saint-Joseph grâce au bateau de Marco. Il se passionne pour l'histoire du bagne.
En 1898, il y a eu les récidivistes qui ont lutté contre les gardiens.
Non, ce ne sont pas des récidivistes, ce sont les condamnés anarchistes. Ce sont des condamnés qui s'opposaient à l'État, mais c'était quasiment des détenus politiques, même s'il n'y a pas en France, à l'époque, de lois punissant des délits politiques. Mais comme ils avaient commis pour partie ou aidé à des attentats ou à des voies de fait, en ayant des opinions libertaires, on les mettait à Saint-Joseph.
Ils connaissaient trop de choses.
Soit ils connaissaient trop de choses, soit eux étaient capables. C'est où la vraie différence. C'est comme on a affaire à des...
Moi, ce que je dis aux gens, c'est que l'île Royale a été nommée comme ça, hommage au roi.
Oui, c'est vrai.
Par contre, Saint-Joseph, je sais, c'est à cause de...
Eh bien, très curieusement, je ne sais pas non plus.
Donc une colle pour Michel Pierre,
dès que
par
je
Marco.
Sais, j'ai un petit souci, je ne sais pas très bien pourquoi il choisit Joseph. Mais je vais trouver.
Vous posez plein de questions à Michel Pierre, Marco. Cette histoire vous intéresse, pour quelle raison ?
Parce que déjà, ça fait partie de l'histoire de la Guyane aussi, un peu. Et la colonisation, tout ça... Elle vient de très loin, donc il y a certains mélanges entre populations de la métropole et d'ici. Et si nous, on ne sait pas, si nous, on ne s'instruit pas, donc moi, je préfère ne pas laisser tout ça disparaître. Et il faut que ça reste, gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. C'est pour ça que je tiens à en savoir plus.
Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Merci, Michel.
Merci. Au revoir.
Michel Pierre, on aimerait vraiment comprendre pourquoi l'État français décide donc de déporter ces criminels. Il y a des prisons en France. Pourquoi on les emmène jusqu'ici en Guyane à 6000, 7000 kilomètres de la métropole ?
Ça correspond à une longue tradition. On a longtemps considéré que la prison, que la détention ne pouvait pas toujours convenir à l'importance du délit. Donc on a eu tout un temps, pendant plus d'un siècle, qui a été celui des galères, où on condamnait quelqu'un à devenir galérien, c'est-à-dire à travailler sur les vaisseaux, à ramer, et à travailler aussi sur ces bâtiments lorsque les galères ne sortaient pas en mer. Et puis, quand au milieu du 18e, on a mis fin à l'existence des galères pour des raisons tenant essentiellement à l'évolution de la marine à voile, ça devenait des navires totalement obsolètes, totalement absurdes de faire naviguer. On a gardé la condamnation aux galères devenant travaux forcés dans les bagnes portuaires, donc à Toulon, à Brest et à Rochefort essentiellement. Et au milieu du 19e siècle, comme finalement on estime que ces forçats à terre coûtent finalement plus cher que d'utiliser le personnel libre qui commence à vraiment être présent sur le marché du travail, comme aussi on se dit que cet effectif pénal peut être contagieux par rapport à la population libre, qui peut être ferment de révolte, qu'il est un mauvais exemple, on commence à rentrer dans une logique de l'exclusion hors du territoire national. Donc au milieu du 19e siècle, on va chercher dans les possessions extérieures de la France un lieu pour transporter ces condamnés aux travaux forcés. Quand on réfléchit à cette époque des premières années du Second Empire, de Napoléon III, les possessions françaises sont en petit nombre. Il y a les Antilles, mais ce sont des territoires relativement limités et on n'imagine pas amener cette population en Guadeloupe ou en Martinique. On n'imagine pas l'amener non plus au Sénégal, où on a quelques territoires qui sont français depuis très longtemps, mais on songe à la Guyane, qui est un immense territoire dont on pense que les potentialités agricoles sont importantes, plantation de café, canne à sucre, etc., où on manque de main-d'œuvre, où il n'y a jamais eu beaucoup, peu de colons libres qui s'y sont installés, et on s'imagine que cette main-d'œuvre forcée va contribuer à la colonisation de la Guyane. Il y a une vision un peu religieuse, c'est-à-dire on peut se régénérer par le travail.
C'est la rédemption par le travail.
La rédemption par le travail, on effectue sa peine, donc on en termine avec le devoir qu'on a vis-à-vis de la société, et ensuite on se refait une nouvelle vie en tant qu'agriculteur, en tant que colon libre. Ça n'a jamais évidemment fonctionné, mais on est quand même bien content, en tout cas en métropole, de débarrasser le territoire de la métropole de gens qui sont considérés comme indésirables. On procède à une forme d'hygiène de la société.
Viendra jamais mon petit homme qui m'aimait, vous en foutez tous, tire ma la douce en crève, ben pour moi vous savez, vous pouvez tous crever, comme ça j'aurai mes soirs pour le revoir. En rêve. Tout de même à supposer, tout d'un coup qui reviendrait, ce serait comme qui dirait, ce serait le 14 juillet. Quelle fête, quelle nuit, quel boum, quel ciel et quel java, j'en ai les genoux qui tremblent, comme si qu'il est là. Tout mon marbre avec moi ferait flamber sa joie. Je crois plus que le bon Dieu pour sûr règne enfin sur Pigalle.
Exilés à vie, ils ne sont jamais revenus, les enfants du bagne. On recherche leurs traces en Guyane avec l'historien Michel Pierre, juste après les infos sur RFI.
La marche du monde.
Nous sommes dans l'endroit le plus petit du bagne, en quelque sorte, un minuscule îlot à proximité de Saint-Laurent-du-Maroni qui a servi de lieu de détention pour les forçats lépreux.
Michel Pierre, au fond, la Guyane est un vaste bagne. Il y a de nombreux lieux. Il y a celui-ci qui est extrêmement insolite, cette toute petite île, cette île au Saint-Louis, au milieu du Maroni, avec le Suriname d'un côté, la Guyane française de l'autre. Vous avez dénombré combien de lieux du bagne ici en Guyane française sur un siècle ?
À partir de 1852 jusqu'à la fin, en 1938, c'est plusieurs dizaines de lieux qui sont marqués par la présence du bagne. Alors ça peut être des camps importants, comme le camp de la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni, Maroni ou le camp de la relégation à Saint-Jean-du-Maroni. Ça peut être un petit camp forestier dans tel ou tel endroit. Ça peut être l'îlot Saint-Louis où nous nous trouvons. Ça peut être d'autres îles en face de Cayenne comme l'île et la mer, l'île de l'enfant perdu qui porte quand même un titre très poétique, où pouvaient se trouver des forçats qui servaient un phare au large de Cayenne. Donc la colonie dans son ensemble a été marquée par un siècle d'histoire, une impression longtemps d'hésitation, d'improvisation, d'expérimentation, jusqu'à ce que l'administration pénitentiaire et le ministère des colonies à Paris pensent avoir trouvé la solution avec la création de Saint-Laurent-du-Maroni.
En 1928, Charles Péan arrive à Saint-Laurent-du-Maroni, chargé par l'armée du salut d'une enquête sur le bagne. Il découvre une prison étendue à la surface d'une ville.
Il n'y a que le bagne, tout est bagne. Alors les gens qui étaient sur l'appontement pour recevoir les amarres du bateau quand il arrivait de la Martinique, c'était des forçats. Les gardiens étaient là, les forçats étaient là. Celui qui a pris ma cantine, c'était un forçat. Les deux qui m'ont conduit à mon logement, c'était des forçats. Tout le monde ne vivait que du bagne. Tous les fonctionnaires, tous les commerçants, tout ça, c'était le bagne.
Les forçats de bonne conduite pouvaient travailler en ville, le plus souvent comme garçons de famille. Et c'était pour eux peut-être la seule chance d'évasion, en allant au village chinois, acheter une barque à prix fort et en profitant de la nuit et de la marée descendante pour atteindre la pleine mer avant le lever du jour.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
La marche du monde en Guyane sur les traces du bagne. Avec vous, Michel Pierre, nous avons quitté les îles du fleuve Maroni pour reprendre la pirogue et pour arriver ici à Saint-Laurent, qui est la véritable capitale du bagne ici en Guyane. Parce que c'est à Saint-Laurent qu'il y avait le plus de bagnards.
Il est certain que c'est le Maroni qui va concentrer des milliers de forçats, soit des forçats en cours de peine, soit des libérés. Et pour les forçats, les condamnés aux travaux forcés qui arrivent à Saint-Laurent-du-Maroni, eh bien ils sont enfermés dans ce camp, essentiellement quand les bâtiments sont terminés à la fin du 19e siècle. Alors il faut s'imaginer une douzaine de grandes cases, dont certaines à étages, ces grandes cases servant de dortoir la nuit pour 50 à 60 condamnés, et des bâtiments annexes, un lavoir, une infirmerie, un lieu pour l'administration, une cuisine, une salle d'anthropométrie, tout un ensemble sur un assez grand espace, entouré de murs mais sans mirador, et avec en plus tout un quartier disciplinaire pour faire régner l'ordre à l'intérieur de cette concentration de plusieurs centaines de condamnés.
Moi, quand j'ai visité ces camps, et après quand on les a revus, la vie n'était pas tellement terrible. Ce qu'il y avait d'affreux, à mon sens, dans le bagne, c'est que les hommes, les bagnards, n'étaient surveillés que le jour. Alors, la nuit, quand arrivait 6 heures du soir, par exemple dans le camp central de Saint-Laurent-du-Maroni, on enfermait les hommes par 80. C'était deux doubles cases de 40 chacun. Et puis on bouclait les portes de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Or, les hommes ne dorment pas 12 heures par 24, mais là, sans surveillance. Alors à ce moment-là, les bagnards étaient le jouet des caïds. Ce n'étaient plus les surveillants qui les surveillaient, c'était les bagnards eux-mêmes qui faisaient la loi, et c'était la loi de la jungle. Mais il n'était pas rare qu'on trouvait un bonhomme le ventre ouvert. Le ventre, parce que c'est là où il cachait son trésor. Mmh.
C'est le plan. Qu'est-ce que c'est le plan ?
C'est un petit tube d'aluminium, très bien fait, dans lequel il pouvait cacher, mettre des billets de banque, peut-être un petit canif, des choses comme ça. Et il mettait ça comme suppositoire, si vous voulez. Alors là, on ne pouvait pas le trouver, à moins de lui ouvrir le ventre. C'est ce qui arrivait parfois.
C'est en tant que général de l'armée du salut que Charles Péan a bien vécu ce temps du bagne, ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Un bagne dont nous venons de franchir les portes, Michel Pierre. Alors nous avons évoqué toutes les cases où étaient enfermés les bagnards la nuit. Et maintenant, nous sommes juste en face de cette porte, la porte du quartier disciplinaire.
C'est la prison dans la prison. Le quartier disciplinaire est logique par rapport à une telle concentration de centaines d'hommes punis. Et ce quartier disciplinaire comporte à la fois des cellules pour la prison de nuit pour de petits délits, des cellules qui permettent de garder des forçats retour d'évasion, par exemple, avant qu'ils ne soient jugés par le tribunal maritime spécial. Et c'est aussi là que se trouve l'une des guillotines concernant les forçats. L'autre est à l'île Royale et les quelques exécutions, quand il y a des années entières sans exécution, c'est dans ce quartier disciplinaire qu'elle se déroule.
Garde-le ! Bienvenue à la colonie pénitentiaire de la Guyane française. Je vous mets tout de suite en garde. On ne s'évade pas de Saint-Laurent, ça ne réussit jamais. Une tentative d'évasion ajoute 2 ans de cellule à votre temps de peine. Une deuxième tentative, 50 plus. Pour ceux qui commettraient des infractions plus graves, nous serons sans pitié. Nous les traiterons de cette façon. Accommodez-vous de ce que nous vous offrons. Et vous verrez que votre sort est encore enviable. Rompez.
Donc l'escalier, voilà, direction, on va le numéro haut de la porte 42, numéro 43 et 44, la 45, 6 et voilà. La 47, vous pouvez regarder à l'intérieur, au sol, voilà. Là est marqué papillon, mais c'est qui papillon? C'est Henri Charrière, voilà.
Il y a une cellule dans laquelle tout touriste est invité à lire le mot papillon en mémoire du best-seller d'Henri Charrière et du film du même nom. Alors on ne sait pas trop si ce mot papillon, qui était le surnom d'autres forçats que celui de Charrière, a vraiment été gravé dans le sol par le vrai papillon, mais ça n'a pas grande importance. Les légendes ont aussi valeur de vérité au bagne.
Les vagues arrivent par série de 7. La 7e est 2 fois plus haute et plus grosse. Elle seule peut nous emmener assez loin pour que celles qui viennent derrière ne puissent pas nous rejeter sur le rocher.
Tu en es certain?
Oui.
T'es prêt? Il va te faire tuer. Tu le sais?
Peut-être pas.
T'en prie, ne fais pas ça.
Papillon réussit à s'évader. Et pendant les années qui lui restèrent à vivre, il vécut en homme libre.
Mesdames, je vous remercie pour la visite. Et vous êtes tous libres, comme un papillon. Et bien chez moi aussi. Venez pour la liberté. Merci à vous.
Là, vous êtes originaire d'ici?
Non, de Suriname.
Lamieux-Vosvik. D'accord.
Lamieux-Vosvik. J'ai arrivé ici en 1989. Ouais.
Vous qui faites visiter aux touristes ce camp, ça vous touche particulièrement? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous pensez à cette histoire?
Alors, pour moi, c'était le bagne. Voilà. C'est la misère. Ouais, c'est la misère.
Pour moi, le bain, c'était comme le sauvage. Voilà. C'est ça que moi, j'ai dit, nous sommes dans le même marmite, noir et blanc, là, au niveau de la souffrance. Voilà. Même ça a duré 100 ans. Mais quand même, c'est la souffrance.
Qu'est-ce qui vous semble le plus inhumain au bagne ?
Alors, pour moi, c'est le travail forcé. Par exemple, au niveau du camp forestier Charvin-Godberg.
C'était comment là-bas ?
En fait, là, les bagnards, ils étaient dans la forêt, tout nus.
Qu'est-ce qu'ils font dans la forêt ?
Ils travaillaient, ils construisaient, faisaient l'agriculture, coupaient les bois, les arbres, voilà. Défraîchaient la forêt pour faire l'agriculture. En fait, ils étaient partout. Ils travaillaient. Ouais. C'est le même. C'est le même. L'esclavage, le bagne, c'est le même. Et tout ça passe ici en Guyane. Et ça m'a fait mal au cœur.
J'ai été condamné à 50 ans forcés pour vol qualifié. C'est ce qui m'a amené en Guyane. Le plus terrible, ça a été le camp de la mort, le camp de Charvin. Les hommes étaient chargés d'abattre les arbres, des grands arbres, et puis d'attacher les pièces sur des chemins de halage, sur des rouleaux. Il fallait, on mettait 10, 15 ou 20 bonhommes sur une pièce pour la sortir de la forêt et la mettre sur la voie ferrée, sur la route. Alors là, le Décoville, un petit chemin de fer passait, et avec les hommes, on chargeait ces pièces sur ce Décoville, et c'était descendu à Saint-Laurent, à la scierie de Saint-Laurent, pour en faire du bois de chauffage, des meubles, enfin de tout, aux travaux.
À ce camp de la mort, il y en a beaucoup qui sont morts ?
Oh oui, voilà. Le camp de Charvin n'a jamais dépassé 400 bonhommes. Ben, il fallait compter par an la moitié de l'effectif.
Et ils mouraient de quoi ?
Soit la dysenterie, la fièvre. Le camp de Charvin, ça a été le plus fort, quoi. Le plus terrible.
À Saint-Jean du Maroni, nous longeons en fait le camp des relégués. Là, nous sommes en pleine forêt. C'est un camp très 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 étendu. Ici, en Guyane, et un camp sans barbelés, Michel Pierre.
Oui, c'est la forêt qui forme les barbelés. Quand on est relégué à Saint-Jean, on a peu de possibilités d'évasion. Si, on peut toujours s'enfoncer dans la forêt, mais les risques, les possibilités de survie sont extrêmement réduites. D'abord parce que beaucoup de ces condamnés ne sont pas préparés à l'existence en forêt équatoriale. Et d'autre part, les populations qui y sont, que ce soit les Noirs bonis, les Noirs marrons, anciens descendants d'esclaves qui occupent les rives du Maroni, ou bien les Amérindiens, bénéficient d'une prime à chaque fois qu'ils ramènent un forçat évadé, qu'il soit transporté ou qu'il soit relégué.
Nous cherchons le cimetière des relégués à Saint-Jean-du-Maroni. Nous sommes dans la forêt. Forêt équatoriale, forêt amazonienne.
Ce cimetière dans lequel les relégués qui décédaient étaient enterrés pouvait l'être parfois dans des vraies tombes maçonnées avec une plaque en fonction des moyens qui étaient les leurs ou des demandes qui étaient faites. Et il y a quelques tombes qui ont été ainsi retrouvées. Nous arrivons devant l'une d'entre elles avec une bordure de briques, une grande colonne troncée en signe de décès. Et on arrive... Non, en fait, on n'arrive pas à bien décrire la plaque qui mentionnait le nom de ce relégué. Par contre, on voit bien que les briques qui sont autour de cette tombe ont le signe administration pénitentiaire. Elles sont toutes marquées AP, fabriquées donc dans la briqueterie de Saint-Jean-du-Maroni et servant pour délimiter les tombes de ces relégués.
Ce sont aussi des bagnards, hein, ces relégués, même si leur niveau de criminalité n'a rien à voir avec ceux qui ont été condamnés aux travaux forcés. Dans l'imaginaire collectif, on les considère comme des bagnards.
Il est vrai que si on avait un relégué dans la famille, on ne faisait pas bien la distinction entre le grand criminel qui était parti comme transporté astreint aux travaux forcés et le récidiviste venu ici comme relégué. Mais ce récidiviste relégué, il est méprisé de tout le monde. Il est méprisé de l'administration pénitentiaire parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait les grands titres de la presse, dont les délits sont finalement minables. Il est méprisé par les transportés de Saint-Laurent, parce qu'on l'appelle par exemple un pied de biche, c'est-à-dire son instrument de travail quand il allait jusqu'au vol en métropole. Donc c'est une société qui est à part du bagne. Ce ne sont pas les vedettes, ce sont les minables, les petits voleurs de poules, les vagabonds, et qui vont être ici en Guyane au nombre quand même de 17 000.
Le dernier convoi a été en 38, au mois de décembre, le 18, si je me souviens bien. Nous avons passé 17 jours sur mer. Nous avons fait un arrêt de 24 heures à Alger pour prendre des détenus aussi. Arrivé à l'embouchure du Maroni, un matin de bonne heure, on a resté 3 heures à l'embouchure pour attendre le pilote. Et puis, on a longé le Maroni jusqu'à Saint-Jean.
Alors, ces petits bagnards donc, vont arriver ici sur des petits wagonnets, sur cette voie de chemin de fer qu'il a sous nos yeux. À votre avis, Michel Pierre, dans quel état d'esprit sont-ils lorsqu'ils se rendent compte qu'on les emmène dans un espace ouvert en quelque sorte hein ?
Je pense qu'il doit y avoir un double sentiment. Il y a d'abord un sentiment certainement de stupéfaction. Quand on a l'habitude des campagnes de métropole ou du pavé des villes, découvrir cette forêt amazonienne, ce fleuve Maroni, cette végétation, croiser quelques habitants du lieu, on doit se demander où on se trouve. Donc je pense qu'il y a la stupéfaction, la crainte, et certainement dans ce milieu ouvert, l'espoir de réussir la belle, l'espoir de l'évasion est un espoir très souvent déçu.
Cet espoir de l'évasion chez les bagnards, ici en Guyane, on voit à quel point ce territoire est un immense bagne. C'est une obsession pour beaucoup d'entre eux. Et beaucoup tentent de s'évader, peu réussissent, vous nous l'avez expliqué. Comment imaginent-ils qu'ils vont pouvoir s'évader ?
En général, les bagnards pensent, en particulier dans les premiers mois de leur présence ici, que la forêt n'est pas une frontière insurmontable, qu'on peut tenter d'y survivre. N'oublions pas qu'une partie sont des anciens braconniers, sont des gens de la campagne qui peuvent s'imaginer qu'on attrape le gibier de la forêt amazonienne comme un lièvre dans le Livernais, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et très souvent, la forêt, c'est l'échec, parce que survivre, s'échapper, traquer par les Amérindiens qui s'y trouvent ou d'autres groupes humains, et ramener au camp contre une prime, on renonce. On part parfois comme ça et puis on revient 24 heures ou 48 heures après. Bon, on est ramené, on fait un peu de prison et puis ça s'arrête là. Mais quand on veut vraiment s'évader, on y réfléchit, on trouve des compagnons de cavale, on essaie de rassembler l'argent nécessaire à la fabrication ou à l'achat d'un canot qui permettra de partir de nuit en profitant de la marée et descendre le Maroni, s'enfoncer le plus loin possible en mer de façon à profiter des vents et des courants qui peuvent vous mener soit vers les Antilles anglaises, soit vers le Venezuela. C'est la seule façon dans cette partie de la Guyane de pouvoir s'évader.
Thank you. La marche du monde en Guyane sur les traces du bagne. Avec vous, Michel Pierre, nous sommes au bord du fleuve Maroni. Nous sommes obligés d'ailleurs de le contempler, ce fleuve. Et nous aussi, on se demande bien comment nous allons nous évader de Saint-Jean, du Maroni, puisque notre pirogue est envasée. Donc j'imagine du coup que vous aussi, vous pensez à tous ces forçats qui n'avaient qu'une obsession, c'était se faire la belle.
Oui, et ceux qui s'évadaient au large du Maroni, dans l'embouchure du Maroni, eux pouvaient s'envaser sur des bancs qui étaient là, des bancs de la mort, avec des sables mouvants, des vases, qu'on a fini par appeler dans la géographie locale le banc des Français, vu le nombre de forçats qui s'y sont envasés et ont disparu à jamais.
Est-ce que dans tous les scénarios d'évasion que vous avez pu trouver dans les archives, que cette mémoire orale du bagne a pu vous conter, quelle est celle au fond qui vous semble la plus extraordinaire ? Vous amuse de plus.
Oui, je pense que celle en tout cas qui a le plus vexé l'administration pénitentiaire s'est déroulée à l'île Royale où il y avait un petit vapeur, un petit canot à moteur de l'administration pénitentiaire dans les années 1920-1930 qui avait évidemment un équipage de forçats, matelots, mécaniciens et autres et toujours des surveillants militaires à bord. Et on avait évidemment toute confiance dans ces forçats qui avaient montré leur valeur professionnelle, leur obéissance. Et puis un beau jour, il est arrivé ce qu'il devait arriver, s'amarrant à l'île Royale pour après l'une de ses missions quotidiennes. Les surveillants militaires sont descendus du petit bateau et l'équipage de forçats qui avait médité son coup depuis longtemps est resté à l'intérieur, a enlevé très rapidement la mare qui la retenait à l'appontement de Royale et faisant demi-tour et lançant la machine à pleine vapeur, ont disparu à jamais puisqu'on n'en a plus trace ni de la chaloupe ni des forçats qui se sont ainsi évadés. Alors les surveillants ont tiré des coups de feu depuis la rive. On a tenté de les rejoindre avec une autre chaloupe qui était présente à Royale, mais ils ont, eux, disparu à jamais.
Michel Pierre, si comme vous l'avez montré pour la République, ce projet finalement, cette utopie du bagne est un échec par rapport aux objectifs que la République s'était fixés, est-ce que vous pensez avec Robert Badinter que c'est également un scandale de la République ?
Oui, c'est toujours délicat pour un historien de porter des jugements de valeur, mais quand on pense que le bagne existe par la Troisième République et la devise liberté, égalité, fraternité, on ne peut pas totalement considérer qu'on a suivi cette devise lorsque on poursuit l'institution du bagne créée par le Second Empire, et non seulement qu'on la poursuit, mais qu'on l'aggrave, et qu'on est certainement... On n'est plus du tout dans l'utopie du développement de la Guyane à la fin du 19e ou au début du 20e siècle sous cette même Troisième République. On est surtout dans la volonté d'exclusion du territoire métropolitain de gens dont on estime qu'ils n'ont plus leur place à l'intérieur du pays. Donc on est assez loin, il faut le dire, et quand Robert Badinter utilise le mot de scandale, c'est une forme de scandale par rapport au principe de cette même République dont on peut difficilement considérer qu'ils aient été appliqués, préservés ou conservés par cette même Troisième République.
Au fond, c'est également de ce point de vue-là que Albert Londres, le grand reporter, arrive à toucher l'opinion publique française sur cette question du bagne. C'est justement sur cette dimension contradictoire avec un pays qui a fait sa révolution.
Oui, Albert Londres est choqué par énormément de scènes qui touchent à l'injustice, qui touchent à l'absurdité de ce qu'il rencontre. Il dit lui-même à un moment, une société a le droit de couper la tête, la peine de mort existant à l'époque, une société a le droit de couper la tête de certains de ses citoyens, elle n'a peut-être pas le droit de se moquer, de se payer la tête de ces mêmes citoyens. Et on a l'impression, effectivement, en Guyane, qu'on se paye la tête des condamnés qui s'y trouvent, qui sont astreints à des travaux absurdes ou à des travaux entraînant leur décès par excès de travail, non soignés, mal nourris, tout ce que découvre Albert Londres et qu'il va dénoncer en disant si on veut faire de la colonisation colonisation ou développer le territoire, eh bien, comment, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tout cela ne signifie strictement rien par rapport à l'objectif initial. Albert Londres va dénoncer à la fois une injustice, mais quand vous avez une injustice doublée d'une absurdité, vous avez là quand même une institution qui était destinée à disparaître. Mais lorsqu'on songe que les reportages sont de 1923, que la loi est de 1938 et que le dernier forçat va quitter la Guyane en 1953, on peut voir quand même combien les mécanismes des sociétés, les mécanismes de la justice, les mécanismes politiques mettent beaucoup de temps à évoluer, à changer. On n'a jamais de véritable rupture brutale. Vous voyez qu'il a fallu 30 ans pour qu'après une dénonciation comme a été celle réalisée avec ô combien de talents littéraires par Albert Londres, on arrive à une disparition du bagne, mais il a fallu 30 ans.
Cayenne, c'est fini. Pas de veine, plus de soucis. Cayenne, c'est fini.
Guyane sur les traces du bagne avec Michel Pierre. C'est à réécouter sur RFI.fr. Une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompéani avec la complicité du musée du bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Cet ancien camp de la transportation vient juste d'ouvrir ses portes et nous verrons la semaine prochaine comment ici, à Saint-Laurent, les Guyanais se réapproprient leur histoire, une histoire coloniale et trop longtemps occultée. Retrouvez toutes nos infos sur le bagne, sur nos pages internet et sur la page Facebook de La Marche du Monde. Podcaster cette émission, c'est la vôtre.
Casser les cailloux, Cayenne. Casser les cailloux, Cayenne. Casser les cailloux à Cayenne.